Salut à tous et bienvenue, vous écoutez Les Éclaireurs. Salut à tous, bienvenue pour les éclairages numéro 20 et 20e numéro déjà, et pour m'accompagner, une équipe entièrement composée de nouveaux. Et quelle équipe? J'ai avec moi Milou.
Bonsoir.
J'ai Anna.
Hello.
Et j'ai Isoura.
Bonsoir tout le monde.
Alors, Barberousse devait passer, mais il n'est pas là, donc je ne sais pas où il est, donc tant pis pour lui. Donc, alors mon cher Milou, c'est ton premier passage ici.
C'est ça.
Alors, qui es-tu, d'où viens-tu?
Oula,
t'attendais pas à celle-là, hein? Non, juste dire d'où tu viens.
Je viens de Limoges. Je fais un petit podcast avec un copain du coin qui s'appelle Efemicast. Et puis voilà.
On pourra en parler à la fin, de toute façon. Donc tu vas nous parler de quoi?
Alors moi, je vais vous parler d'un petit groupe, entre guillemets, de musique qui est plutôt dans le style metal. Je vous expliquerai tout ça tout à l'heure.
Parfait. Et donc, on a aussi Anna. J'ai enfin réussi à te faire venir.
Enfin, oui. C'était pas une...
On a galéré pour trouver une date.
Oui, j'ai un emploi du temps qui est un peu compliqué pour avoir une vie sociale et virtuelle. Voilà.
Tu vas nous parler de quoi?
Eh ben moi, je vais vous parler de la série The Office, US, la version
ouais,
US.
Oui, la version US, expliquerait bien.
Ouais. Ah, ouais.
Ah oui. Et après, on a Isoura qui terminera la marche. Donc, t'es bien revenu du Stonefest.
Voilà, c'est ça.
Le retour n'était pas trop long.
Non, le retour, ça allait.
Et donc, tu veux nous parler du...
Bah, du Stunfest.
Et oui, évidemment, tu vas faire un petit retour sur Stunfest.
C'est ça.
Et moi, pour ma part, je vais passer en premier, parce que déjà, j'ai tous les droits, bien sûr. Et juste parce que ça n'a pas duré longtemps, donc je vous laisse discuter après, je vais parler de la série Arrow. Je sais qu'il y en a deux, trois là qui regardent avidement la série. Donc,
de temps en temps, le jeudi.
Ça va être cool. Tous les jeudis matin, pendant un petit déjeuner, c'est ça.
Pas quand je bosse, mais...
bon, on va passer directement à la suite, parce que je pense qu'on a beaucoup de choses à dire. Et donc, c'est parti pour Arrow. Bon, vous avez reconnu, hein, petite musique de début, donc,
oui.
Bien évidemment. Alors moi, je vous préviens, donc j'ai pas eu trop le temps de préparer, donc d'ailleurs, tout à l'heure, je savais même pas quel sujet prendre, donc j'ai un petit peu choisi à l'arrache, j'avais trop de trucs à faire. Donc j'ai choisi la série Arrow, et donc là, je vais commencer par le pitch, hein. C'est Oliver Queen, c'est le fils d'un milliardaire même, je crois, c'est un playboy, donc il est porté disparu suite au naufrage du bateau de son père, où son père est aussi mort... pendant le naufrage, mais bon, ça on le sait dès le début. Et donc il revient, il est retrouvé sur une île après 5 ans d'errance, et il retourne à Starling City, sa ville natale. Et donc là on se rend compte qu'il a quand même bien changé, il va cacher la vérité sur ce qu'il est devenu, et il cherche désespérément à faire amende honorable de tout ce que son père a fait de mal avant, donc... Il va endosser la personnalité du vigilant, donc c'est quelqu'un qui va redresser les torts, et il va essayer de faire des bonnes actions. Ça se voit que j'ai pas...
Non mais jusque là c'est bon, on y va.
Et donc, que dire de la série? Alors moi, c'est un petit peu difficile pour moi d'en parler, parce qu'en fait d'un côté j'adore la série, je la trouve super fun à regarder, et je suis à fond dedans, donc ça c'est sûr. Mais d'un autre côté, en fait, je trouve que la série, elle a énormément de défauts, et bon, je suis pas le seul à penser. Je sais pas si vous trouvez qu'elle a beaucoup de défauts ou pas, non?
Au niveau des épisodes, c'est assez régulier. Il y en a des très bons, et il y en a où je me suis fait chier, pour être honnête.
Des fois, tu sens que t'as des épisodes de remplissage, comme ça.
C'est ça. Il y a deux épisodes dans la saison 1 qui sont assez scandaleuses, qui sont écrits par Geoff Jones, en plus. Qui a un très beau scénariste, ah ouais, de comics, et qui est scandaleux parce que c'est mièvre, mais c'est pas possible, quoi. J'étais très très déçu de ces épisodes.
Oui, parce qu'en plus, la série se base sur le personnage du comics Green Arrow. Après, j'ai pas vraiment lu les comics, je sais pas si vous les avez déjà lus, mais du coup, moi, j'ai un petit peu le mal à savoir si c'est finalement représenté ou non.
Moi, j'avais fait une recherche, et c'est Urban Comics qui fait le comics, c'est Years One, qui est dans les plus proches. Bah même s'il y a quelques références, mais vite fait.
Ouais, c'est pas représentatif à 100%.
Non, non, je crois que... Et puis j'avais fait des recherches, savoir exactement les comics. Enfin, parce qu'il y en a pas mal. Après, moi, je suis pas un spécialiste de comics, donc je vais pas trop m'avancer. Mais en VF, il y en a pas des masses, hein, des numéros de Arrow. Là, ça se développe peut-être un peu avec la série, mais...
Avec le succès de la série, ouais. Mais justement, c'est toi qui m'avais donné envie d'en parler, de le regarder, parce que t'avais fait un dossier là-dessus dans ton podcast, et j'avoue que ça m'attirait pas vraiment, la série, au début. Mais bon, j'ai regardé, parce qu'il y a quand même John Barrowman.
Ouais.
Non, c'est qui?
Et le monsieur Jack Harkness de Torchwood, de Doctor
Oulala, ah d'accord, ok.
C'est lui qui joue Malcolm
Merlin. Ok, ok.
Malcolm Merlin, voilà. Et du coup, comme j'ai vu qu'il était dans le cast, j'ai sauté sur la série parce que
bon, j'ai pas du tout fait le rapprochement.
Ah ouais. Ah, oh, quand même, il a une gueule reconnaissable. Quoi.
Ouais, mais je sais pas du tout.
Quand j'avais fait le dossier, j'avais cherché les acteurs et ce qu'ils avaient fait. Et ouais, quand j'ai vu le nom et la référence, je lui ai remis la tête qui allait avec, mais sur le coup, j'avais pas reconnu non plus.
Ah si, quand même. Oh.
Désolé.
Donc en fait, l'histoire va alterner entre son retour chez lui, tous les événements qu'il va accomplir en tant que vigilante, et après il y a quelques flashbacks à chaque épisode qui vont se centrer sur ce qu'il a vécu après le naufrage. Donc c'est-à-dire qu'il va rester coincé sur une île et qu'il va au final se passer pas mal de choses, hein, qui vont expliquer pourquoi son caractère a changé. Ça me fait un petit peu penser rapidement à Lost, pour le côté les intrigues qui se passent sur une île. Du coup, rien que ça m'avait donné envie de... Ah oui, du moment qu'il y a une référence à Lost, moi ça me va. Et on voit des images d'avant le naufrage aussi. Honnêtement, je sais pas si vous vous souvenez du personnage avant le naufrage. Donc on le voit, c'est un dandy, il est riche, branché, il se fout un peu de tout, et honnêtement, je trouve que c'est une sacrée tête à claire.
Ah ouais, quand on a eu quelques passages, c'est dans l'épisode de la semaine dernière où il était... jeune et désinvolte, complètement irresponsable.
C'est ça.
Un vrai gamin, capricieux, riche, enfin qui fait ce qu'il veut.
Après, comme j'ai dit, je trouve que la série a pas mal de défauts en fait. D'abord, je trouve que ça a eu beaucoup de mal à démarrer. Je trouve que c'était assez lent au début, quoi. L'intrigue a eu du mal à se mettre en place. Faut savoir que la saison 1, c'est quand même mise en place de tous les personnages, de leurs relations. Donc ça. Le fil rouge met un petit peu de temps à se développer. Et je trouve que dans la saison 2, ils ont bien posé directement l'histoire de la saison, et je pense que ça marche plutôt bien pour la saison 2.
Bah, ils avaient plus de sous déjà, je pense. Donc,
je pense aussi, ouais.
Ça l'a pas mal aidé. Hein.
Moins d'épisodes de filler, enfin, des épisodes de remplissage dans la saison 2, je trouve, à titre personnel. Sinon, il y a beaucoup de gens qui reprochent à la série sa réalisation. Après, je suis assez d'accord, parce que certaines fois, tu vas avoir des plans un petit peu bizarres, des effets spéciaux qui sont un petit peu limites. J'ai aussi pas mal de reproches sur les acteurs, qui sont un petit peu légers par moment, un petit peu même stéréotypés, certains personnages, le garde du corps balèze, mais en fait, au final, c'est un petit peu ça, mais au final, il n'a pas un grand rôle dans l'histoire. Hein.
Ouais, même son background n'est pas ouf, je trouve.
Ouais, ils ont essayé un petit peu d'étoffer le personnage, mais ça manque des backgrounds. Il y avait aussi, par exemple, Felicity, qui est l'informaticienne un peu geek, excentrique.
Un peu, ouais.
Ouais, qui sert un petit peu à justifier tout le côté technologique, les gros ordinateurs qu'il y a derrière. Sinon, en antagonisme principal, mais j'aime beaucoup ce personnage, c'est le détective Lance.
Même le rôle qu'il a dans la... Enfin, le personnage dans la série est quand même assez intéressant.
Il est super intéressant. Qui va passer de l'antagoniste principal au tout début à un allié de poids, quand même.
Après, oui, on va pas trop spoiler, mais il y a un épisode récent où il a eu une réflexion sur Arrow qui était pas mal, justement, où il revient sur le fait qu'il était prêt à le pourchasser pour le tuer.
Ça faisait très Batman, quand même. Enfin, très Dark Knight...
De toute façon, depuis le début, on voit que la série elle a été tournée dans ce sens-là. Même si dans la saison 2, il y a eu quelques petits décalages où c'est un peu moins, on va dire que c'est un peu moins proche de la réalité.
J'adore complètement la série, mais il y a des bons moments, surtout les combats en fait. Je trouve qu'ils sont super bien chorégraphiés. C'est un vrai plaisir.
Mmh. Ah oui, non, la chorégraphie est très belle. Hein. Moi, j'aime beaucoup.
Et ce que j'aime beaucoup dans cette saison, du coup, t'en as un peu parlé, c'est ce passage un peu du côté du... C'est-à-dire pas du fantastique, mais presque surnaturel. Les ennemis qui ont des capacités hors du commun, quoi. Super force, super résistance. Ça, j'ai trouvé ça pas mal.
Il y a, enfin, le moi le seul c'est l'épisode où il y a Flash,
Oui.
sa transformation qu'on voit, c'est clairement pour lancer le spin-off.
Oui.
Et par rapport au reste, je trouve que c'était un peu trop, justement, un peu trop.
Je trouve qu'ils sont allés trop loin.
Ben, par rapport au reste de la série, oui.
Ouais, c'est vrai que c'est un petit peu soudain de façon.
C'est, là, c'est vraiment par rapport au reste de la série, justement, qui était quand même assez proche du réalisme. Là, c'est carrément parti
ouais,
dans
mais
autre chose.
Après, c'est comme ça qu'il obtient ses pouvoirs entre guillemets dans les comics. Donc ça, c'est un peu.
Oui, mais cette scène-là a été rajoutée exprès pour lancer le spin-off derrière, qui sera. Enfin, je crois que c'est prévu pour la rentrée prochaine, la série Flash.
Ouais.
Et oui, parce qu'en fait, oui, ça. Là, déjà, c'est la saison 2. Donc ça, en plus, ça se termine la semaine prochaine, donc j'ai super hâte. Et donc, oui, il y a un spin-off qui est en préparation, ça va être centré sur Barry Allen, c'est ça? Et c'est ouais. Un personnage qui fait éruption dans juste un seul épisode, quoi. Et qui fait juste un passage éclair, enfin, c'est, oui, sans mauvais jeu de mots.
Oui, c'est ça.
Et donc, il lui arrive un pépin et on sait qu'il va devenir Flash. Et donc, sinon, bon, je suis conscient que j'ai peut-être pas très bien vendu la série, hein. Je suis désolé, mais bon. J'ai vu pas mal de monde cracher sur la série. Mais qui, au fur et à mesure du visionnage, se sont vraiment pris dans l'histoire, et qui en décrochent pas, au final. Mais moi, pour ma part, je suis comme un petit gamin avant Noël. Dès qu'il y a un nouvel épisode, moi, je suis à fond. Donc.
Ah ouais, moi, c'est pareil. La fin de l'épisode, je suis sur les dents, et j'attends la semaine prochaine. Et...
S'il y a des petites références à Lost,
ah non,
ça
bah, moi, c'est
ouais.
Moi qui trouve
bon,
des
île,
références.
Ouais.
C'est léger, quoi. C'est le fait d'être dans l'île.
Ah ouais, d'accord.
Voilà, c'est l'île avec des petits secrets comme ça, mais...
Je trouve que c'est la meilleure série de comics réalisée, enfin la meilleure série de super-héros réalisée en ce moment. Comparé à Marvel, Legend of Shield, c'est pas comparable. Hein.
J'osais pas le dire, mais ouais.
Bah, je sais pas. Apparemment, Legend of Shield, ça a beaucoup, ça s'est beaucoup amélioré en fait au fil de l'épisode.
Ah, faut que je regarde. J'ai vu que les trois premiers.
Barberousse,
j'ai fait, okay,
s'il était là, pourrait nous en parler.
J'ai suivi,
hein.
Mais non, j'accroche pas moi. J'en ai Shield.
Et puis il y a Gotham qui était annoncé. Je sais pas ce que vous en pensez.
Oui, Gotham.
Bah, ça peut peut-être m'accrocher aussi. Oui.
Je sais pas. J'attends de voir.
Voilà. C'était juste un rapide retour sur Arrow. Regardez parce que c'est quand même très très bien. Ça va être à qui maintenant? Ça va être à toi, Milou.
Bah, il paraît, ouais.
Et ouais. Donc on se retrouve juste après ça. Qu'est-ce que c'est que ce truc?
Alors, ce truc, ça s'appelle. C'est un groupe néerlandais, ça s'appelle Epica.
Néerlandais,
oui. Non, non. Alors, c'est. Oui, c'est un groupe de métal dit symphonique. Après, même les. Même la chanteuse n'est pas d'accord forcément sur le.
Ouais, sur le terme,
sur la classification, mais ouais, en général, on la trouve. Enfin, on trouve ce groupe classé là-dedans. Le groupe a été formé en 2002 par l'ex-guitariste de After Forever, qui est un autre groupe de métal bah, qui n'existe plus. Le guitariste s'appelle Mark Jensen. À l'origine, le groupe s'appelait Sahara Dust. La chanteuse s'appelait Elena, alors vous m'excuserez hein, pour l'accent, Michael Sen, qui fait partie du groupe Trail of Tears, s'il y en a qui connaissent.
Non, du tout.
Mais elle va être très vite remplacée parce qu'en fait, elle va même pas faire le premier single. Elle va rester moins d'un an avec eux et elle va être remplacée par Simone Simon, qui est toujours la chanteuse du groupe. À l'époque, elle était âgée de 17 ans, c'était la petite amie du guitariste. Enfin, ça, c'est un avis personnel, mais entre nous, le guitariste a bien fait de changer de chanteuse. Tant sur le physique que sur la voix. et en fait, le nom définitif du groupe, il va être choisi à la sortie d'un album de Kaamelott, qui est là un groupe de métal américain, qui va sortir un album qui s'appelle Epica. Et la plupart du groupe Epica ont bien aimé cet album et ont choisi le titre de cet album comme nom de groupe.
De piquer le nom.
Et ils vont sortir leur premier album en 2003, qui s'appelle Phantom Agony. Qui est d'ailleurs produit par le producteur de Kaamelott et ils feront en 2004 d'ailleurs les premières parties de tous les concerts de Kaamelott.
Oh, bah ils ont bien commencé, je me dis.
Voilà. Donc le groupe, il est composé de 6 personnes. Donc il y a la chanteuse Simone Simon, le guitariste Mark Jensen, le frangin au clavier Cohen Jensen. À la basse, on a Rob Van Der Loo.
Quel accent!
Eh, t'as vu un peu? J'ai fait des efforts, j'ai répété avant. à la batterie, on va trouver Ariane Van Wiesenbeek et en deuxième guitare, Isaac Delahaye. Donc oui, le genre de musique, il s'inspire de différents styles. Enfin, c'est eux qui le disent, qui s'inspire du black metal, du folk metal, du power metal et même du rock. Et puis ils ont des influences de classique et d'opéra. D'ailleurs, le morceau numéro 2 que je t'ai envoyé.
Unleashed.
Voilà, c'est ça. Et donc ça, ouais, c'est un extrait d'un de leurs concerts où ils jouaient avec une quarantaine de musiciens, une trentaine de choristes. D'ailleurs, leurs concerts sont assez phénoménaux.
T'es déjà allé ?
Donc, ouais, comment ?
T'es déjà allé à un de leurs concerts ?
Ah, j'aimerais bien, mais en France, ça passe pas souvent. donc ouais, ils mélangent un peu tous les styles. Il y a même une intro sur un morceau qui s'appelle Quietus,
ouais.
Où on sent une petite inspiration irlandaise.
Je te le mets.
Ouais, j'avais dû te... Ouais.
C'est sympa, j'aime bien.
Bah c'est moi les groupes comme ça avec des mélanges de styles, en général ouais, j'accroche pas mal. Ils ont 6 albums à leur actif. Le dernier d'ailleurs est sorti la semaine dernière, et donc ils ont 2 CD live. Et puis ouais, au niveau du thème, justement, suite à la sortie de leur dernier album, il y a un journaliste qui leur a demandé le thème principal de l'album. Alors les réponses qu'ils donnent, tant que ce soit autant pour le thème que pour les styles, c'est un peu... faut suivre, quoi.
Oui.
Donc la chanteuse, elle répond à la base, donc le dernier album qui s'appelle Quantum Enigma, trouve son inspiration dans une partie de la physique quantique et de la recherche de la perception de la réalité.
D'accord.
Je ne vois pas la même chose que ce...
Et
comment?
Non, je dis, c'est... ça va loin.
Ah ouais, non, mais pour définir leur style, c'est à peu près pareil, hein, les réponses.
Ok.
Donc, ouais, elle rajoute, je ne vois pas la même chose que ce que toi, tu vois, car ce que je vois est influencé par mon esprit. Ce n'est donc pas la vraie réalité, mais ce que je pense être la réalité. Donc, c'est d'une certaine façon à la fois philosophique, mais aussi scientifique. La physique quantique a déjà été un de nos thèmes avec la chanson Kingdom of Heaven de l'album Design Your Universe. Ouais, pour le nouvel album, ils ont continué à développer ce concept. Puis sinon, ouais, ils ont des sur leur premier album, ils parlaient des différentes religions et plus ou moins de la manipulation. Ils ont un album aussi qui est inspiré de la civilisation maya. Enfin, au niveau des thèmes, c'est très diversifié, ouais. Mais après, ça reste toujours dans le même style. Ils mélangent du classique, des gros sons de guitare, la batterie. Enfin, ça reste toujours...
Oui, le côté métal reste là.
Ouais.
Alors, Barberousse nous dit, est-ce que c'est assez proche de Nightwish? Oui, ce qu'il est dans la chatroom, mais je peux pas le dire.
Alors, la chanteuse dit s'inspirer de la chanteuse qui était à l'époque Tara, chez Nightwish.
Mm.
Et aussi de la chanteuse Sharon de Within Temptation, pour ceux qui connaissent.
De nom, ouais.
Et d'ailleurs, en Epica, ils se sont fait connaître en France, car ils ont fait la première partie de Within Temptation à un concert qu'ils avaient donné à Euro Disney.
Oh ah ouais, c'est le choc des générations, des cultures.
Ouais, c'est ça. Mais enfin, moi, c'est 3 groupes que je connais, que j'écoute. Mais enfin, même si Yadi s'en inspirait, c'est quand même, enfin, je trouve que c'est quand même assez différent. De par, enfin, parce que le Nightwish, je sais pas s'ils l'ont fait, mais Within Temptation, c'est qu'ils ont fait un concert avec un orchestre philharmonique.
Mm-hmm.
Mais c'était juste pour un concert, tandis que là, ouais, Epica, c'est sur quasiment tous leurs albums, t'entends des violons. Enfin, tu vois qu'il y a un orchestre derrière, quoi, même si. C'est pas
ouais, oui, je...
c'est pas présent sur tous les titres. Il y a toujours un petit titre comme ça qui fait que on sent bien l'inspiration classique quand même.
Mais sur les petits extraits que tu m'as donnés, on sent quand même qu'il y a une recherche. Comme
ah là, j'ai sélectionné. Ah,
j'allais dire, c'est l'influence, c'est ou Wagner ou Karl Orff, les trucs très avec des orchestres symphoniques chargés, quoi.
Ben les deux albums live, c'est ceux que j'écoute le plus souvent au final. Les autres albums, je les écoute de temps en temps, mais beaucoup moins. Ils en ont fait donc des albums live, ils en ont fait deux. Le premier, il date de 2009, il s'appelle Classical Conspiracy. Il a été enregistré en Hongrie à Miskolc. Je ne sais pas si ça se prononce comme ça. Il y a beaucoup de consonnes et très peu de voyelles. C'était en présence d'un orchestre symphonique de 40 musiciens, il y avait une trentaine de choristes. Et en fait, cet album live, autant les musiciens classiques et le groupe Epica avaient sa partie, donc il y a toute une première partie où ils reprennent, c'est les musiciens qui jouent des morceaux, des bandes-sons de films. Il y a une reprise, il y a un medley des génériques de Spider-Man, il y a une reprise de la marche impériale de Star Wars.
C'est comme ça que je vous ai connu, moi.
Je veux le lien de ça, tu me le passeras.
Ouais. Bah, surtout marche impériale, quand t'es sur l'autoroute à fond, c'est assez beau, quoi.
Je voulais le mettre à la fin, mais sinon, péremptoire, je vais te modifier l'ordre.
Ouais.
Sur une version de cet album, je crois qu'on peut la trouver que sur iTunes. Il y a aussi une reprise de Pirates des Caraïbes.
C'est la 5.
Ouais, c'est la 5. Ouais. Donc ouais, sur ce CD live, donc il y a le premier CD, c'est l'orchestre symphonique qui joue ses morceaux et c'est Epica qui les accompagne. Et sur la deuxième partie, en fait, c'est l'inverse, c'est Epica qui joue ses morceaux et c'est l'orchestre symphonique qui les accompagne. Et c'est un album qui est excellent, celui-là.
Celui-là, je l'écoutais, tu vois.
Et le deuxième album live, c'est Retrospect. Ils l'ont donné en mars 2013 à Eindhoven. C'était pour célébrer le 10e anniversaire du groupe. Et par contre, là, on passe à 70 musiciens. Et les choristes, j'ai pas le nombre exact, mais je pense qu'il y avait au moins la trentaine. Et là, du coup, ils reprennent tous leurs plus gros titres sur leurs 10 ans de carrière. Et pareil, on a le droit à un concert magnifique. Moi, j'avais l'album, j'avais dû le prendre sur iTunes, et du coup je me suis racheté là il y a pas longtemps là la vidéo du concert, et c'est franchement exceptionnel.
Tu as racheté, tu n'as pas...
Non, je peux donner des photos à la pluie.
C'est rare d'acheter les CD.
Je veux bien croire.
Ben là c'est parce qu'il y avait la vidéo avec. Mais ouais, c'est un concert magnifique, et dans ce concert-là, la chanteuse... explique plus ou moins leurs 10 ans de carrière. Et à un moment, elle parle... Enfin, apparemment, c'est une grande cinéphile. Et il y a un titre en particulier. En fait, c'est le film From Hell qui lui a inspiré. Et c'est... Péremptoire, c'est le numéro 4, c'est Chasing. Le titre, c'est Chasing the Dragon.
Oh là là, la SACEM.
Ah non, normalement, j'ai tout coupé à 30
secondes.
Oui,
j'ai vu.
Je t'ai fait ça
carrément.
Et ouais, donc là, comme vous avez pu l'entendre, il y a même quelques passages où le guitariste fait des... En grunt, on dit, c'est ça, si je me gourre pas.
Ah, je ne sais pas du tout.
Ce qui demande à peu près autant de boulot que de chanter comme le fait la...
Ouais, c'est du chant guttural, mais le grunt, je sais pas.
Voilà, c'est ça. Donc voilà, c'était ce petit groupe de musique que je voulais vous faire partager.
Si par exemple tu devais conseiller un ou deux albums pour commencer.
Ah ben c'est les deux concerts. Deux Classical Conspiracy, peut-être commencez pas, parce que ça commence en douceur justement avec l'orchestre symphonique et les petits sons de guitare qui arrivent derrière. Et puis après vous avez la partie Epica
qui leur est propre. Et rétrospect, après, vous enchaînez derrière et je pense que vous pouvez bien accrocher.
Bah, écoute, moi, je vais écouter ça.
Je peux te donner une bonne adresse, va.
Petit malin. Très bien, bah merci.
Bah de rien, c'était un plaisir.
Et donc, on va passer à Anna, ça va être à toi.
C'est parti. J'adore cette musique.
Ah oui.
Ah, le petit générique de The Office, tu l'écoutes et c'est bon, t'as la pêche pour la journée.
Mais lequel The Office ?
Alors, The Office, la version US. Parce que les Américains, ça, c'est, ils ont l'art du remake, ils savent pas vraiment faire autrement.
Oui, mais c'est un bon remake pour le coup.
C'est un excellent remake et d'ailleurs, je dois même dire que j'ai pas vu la version britannique. J'ai regardé les deux premiers épisodes et j'avais commencé par la version US, donc c'est très difficile de passer derrière. Même si je pense qu'elle est très bien, mais bon.
Elle est sympa, j'ai regardé le début, ouais.
Donc, bah, The Office, la version américaine, qui a commencé en 2005, je crois, et qui vient de se terminer cet été, là, en 2013, donc ça a donné un total de 9 saisons. Ouais, ce qui fait pas mal, je crois qu'il y a plus de 200 épisodes. Donc bon, ça, c'est dense, c'est des épisodes qui sont courts. Pour la plupart des saisons, c'est 22 minutes. Et sinon, il doit y avoir une ou deux saisons où les épisodes ont été à 40 minutes. Et j'ai pas trouvé d'explication à ça. Je pense qu'ils voulaient rentrer dans des trucs un petit
c'était
peu plus...
C'était pas la période de la grève des scénaristes où ils essayaient de...
Je crois que oui, je crois qu'il y a eu un truc dans ce goût-là. Je crois qu'il y a eu un truc dans ce goût-là, enfin bon. Donc en fait, The Office, et ben ça... ça se passe dans un bureau, c'est ce qu'on appelle un documenteur.
Ouais, un mockumentary.
Voilà, en anglais. C'est mieux de le dire, oui, oui. Mockumentary. Donc c'est un faux documentaire où on va suivre le quotidien d'une équipe dans un bureau de la Dunder Mifflin Paper Company qui, comme son nom l'indique, vend des ramettes de papier. C'est hyper engageant. Comme ça, c'est sur le papier, justement.
En même temps, ça donne un côté banal.
Ah ben, tout à fait, oui, c'est ça. C'est des chaises en plastique, des trucs, voilà. C'est pas
une belle entreprise.
Non, après, non, c'est un côté, c'est un côté un peu dans l'idée... comment ça s'appelle là ? C'était le message à caractère informatique, informatique,
oui,
et
voilà,
Cogip.
C'est
un peu le...
Voilà, la Cogip.
Esprit Cogip, quoi.
Oui, effectivement, les garçons, c'est l'an 2000. Particulièrement ici à la Cogip, où moi, Daniel Ranu, je m'occupe de diffuser une ambiance de fiesta dans les bureaux pendant tout le mois de janvier.
Alors, au départ, le premier épisode est complètement calqué sur la version britannique. Et puis, petit à petit, ça s'est... ils ont pris leur propre chemin, leur propre scénario, voilà. Et donc l'intérêt de cette série réside vraiment dans ces personnages qui sont, alors il y a, je dirais, entre 4 et 5 personnages principaux et après une foultitude de personnages secondaires, mais qui sont tous aussi intéressants les uns que les autres.
Ils ont tous un petit truc.
Ils ont tous un petit truc. Voire... enfin bon.
Oui.
Donc, en gros, qui est-ce qu'on va suivre principalement ? On va suivre déjà le boss, donc, qui est Michael Scott, qui est joué par Steve Dieu Carell. Voilà. Je quitterai ma mère pour Steve Carell. C'est dit. Donc, lui, c'est un peu la star de la série parce que tous les autres, il y a très très peu de monde qui était connu avant de commencer. D'ailleurs, c'est plus ou moins au niveau du casting, j'y reviendrai après parce que c'est assez intéressant comme ça s'est passé le casting pour la série. Mais ils sont tous plus ou moins une bande de potes déjà avant de commencer à jouer dans la série. En tout cas, ils se connaissent tous plus ou moins. Donc Michael Scott, qui est le patron de la branche de Scranton, donc de la Dunder Mifflin Company, qui a plusieurs branches dispersées sur l'est des États-Unis. Donc, il est le manager régional. Regional Manager. Et donc c'est un personnage qui est à la fois une caricature et un archétype, qui est à peu près...
Très dérangeant, certaines fois.
Ah, mais totalement dérangeant, ouais. Qui est immature, lâche, plein de préjugés racistes, sexistes, homophobes, voilà, mais qui est en même temps plein de bons sentiments.
Oui,
C'est-à-dire qu'il va dire des horreurs, mais de bon cœur, gentiment, et à côté de ça, il est dans son travail totalement incompétent. Il veut absolument être aimé de ses employés. D'ailleurs, il a une tasse du meilleur patron du monde, mais c'est lui-même qui se l'est acheté. Hein. Il passe son temps à faire des réunions complètement inutiles. Et puis, on sent bien qu'il a quand même raté un peu sa carrière. C'est pas ce qu'il voulait faire, lui, dans la vie. Il voulait être acteur, magicien, chanteur. Il est toujours en recherche d'admiration. Puis il adore les enfants, il parle tout le temps du jour où il sera père, et ses employés, c'est ses enfants, il les voit comme ça, il les aime, voilà. Et puis donc il est suivi dans l'entreprise, il y a les vendeurs, il y a la partie, la compta, on suit toutes ces équipes-là dans le bureau, et donc il y a dans les vendeurs, il y a Dwight Schrute. Alors Dwight, il est fabuleux, Dwight. Donc lui, il est joué par Rainn Wilson, qu'on avait vu dans une saison de Six Feet Under.
Ah, ça, je peux pas dire.
Il avait joué dans une saison de Six Feet Under, où, je sais pas si vous avez vu cette série, où il jouait une espèce de petit ami platonique de la mère de la famille Fisher. Donc c'est un rôle assez dérangeant aussi. Donc lui, il joue un vendeur. Alors... comment décrire Dwight ?
Une espèce de monomaniaque.
Alors c'est le nerd geek. Il est psychopathe, psychorigide, on va dire, ouais. De l'ordre.
Ouais, c'est ça.
Il est fan du Seigneur des Anneaux, de Battlestar Galactica. Il est shérif local de son canton.
Ramasseur de navets.
Des betteraves. En fait, il vient d'une famille Amish. Déjà pour signer, parce que la Pennsylvanie, c'est le pays des Amish. Il vient d'une famille Amish. Il s'occupe d'une ferme. Avec, donc il élève des betteraves. Donc ça, c'est un de ses sujets de conversation préférés, la betterave. Et bien sûr, c'est un gros faillot qui veut absolument. Il est comment dire auprès de Michael Scott quoi. Il est en admiration pour Michael Scott. Mais c'est pas désintéressé. C'est pas désintéressé. C'est que derrière, il attend quand même des promotions qui ne viennent jamais. Voilà. Et c'est la tête de Turc. Ce Dwight Schrute, c'est la tête de Turc de Jim Halpert. Donc Jim, qui est joué par John Krasinski, qui lui était absolument pas connu avant la série, et qui est un autre vendeur et qui arrête pas de lui faire des crasses dans le dos. Voilà. Et ce Jim, il est très copain avec Pam, qui est la réceptionniste. Voilà. Qui est elle plutôt timide, effacée, qui est témoin à peu près de toutes les blagues horribles que Michael Scott fait à tout le monde, parce qu'il la met comme complice.
Dans le premier épisode.
C'est abominable, oh là là. Dans le premier épisode.
J'étais mal à l'aise. Hein.
Mais c'est le but. C'est le but.
Regardez
et entre autres personnages, on va retrouver aussi. Il y a l'intérimaire. Ryan, Michael Ryan. Scott admire, qui voudrait que ce soit son fils, parce qu'il a fait des études un petit peu. Il y a la comptable psychorigide, la nymphomane alcoolique, le mec des ressources humaines complètement dépressif, qui est détesté par Michael Scott parce que pour lui, à cause de lui, il n'y a pas de fun dans le bureau. Parce qu'on n'a pas le droit de faire des blagues, ni racistes, ni sexistes, ni homophobes. Enfin voilà. Donc il y a un petit peu vraiment plein de gens. Alors c'est vrai que ça peut paraître des caricatures, mais en réalité, je crois qu'on a tous rencontré dans notre vie un Michael Scott, un Dwight Schrute, on les connaît tous, dans la vie professionnelle ou personnelle.
C'est ça, en fait, je trouve que tous les personnages font très humains. Quoi, en fait.
Mais c'est ça.
Voilà, t'as l'impression de voir des gens comme c'était des gens que t'allais voir dans une entreprise.
Exactement. Et donc c'est bien rendu avec cet aspect de la manière dont c'est mis en scène et dont c'est filmé. C'est-à-dire que ils savent qu'ils sont filmés, donc même auprès des acteurs, enfin du rôle qu'ils incarnent, il y a différentes façons d'agir. Il y a Michael Scott qui est à fond. Alors lui, il est toujours en train de venir voir, je vais vous montrer ça, il parle à la caméra. Et il y a tous ceux qui baissent les yeux, qui sont très mal à l'aise, qui détournent le regard, qui savent qu'ils sont filmés. Il y a ceux qui n'ont rien à faire. Et puis il y a, on voit avec Jim par exemple, tout Jim, il cristallise un petit peu ce côté, c'est le gars normal. Et ses regards ouais. caméra, c'est un peu à nous qu'il les adresse quand on regarde.
Genre, c'est, qu'est-ce que je fous là,
où, voyez où je bosse, les mecs. Voilà. Et puis, on alterne donc les scènes où c'est filmé dans le bureau avec des moments confessionnels, face caméra, en tête à tête ou à deux, qui renforcent un petit peu, des fois, l'effet de malaise. Voilà. Et donc, c'est beaucoup des acteurs, à part Steve Carell, sont tous des gens qui viennent un petit peu du stand-up ou du théâtre d'impro ou des choses comme ça, donc ouais. qui n'ont jamais fait de télé ou de cinéma avant, qui se connaissaient tous plus ou moins les uns avec les autres et qui ont été le rôle a été créé pour eux. Je pense notamment à il oui. y en a un qui est Creed Bratton, qui d'ailleurs s'appelle dans la vraie vie Creed Bratton. Ils ont gardé leur vrai prénom, ils n'ont pas changé, ce truc-là. Et puis donc, par exemple, Pam et Jim ont été choisis pour leur compatibilité au moment du casting. Ils ont fait des tests de complicité entre les acteurs.
Et ça marche très bien en plus.
Et ça marche très bien, ouais. Ça marche très bien. D'ailleurs, je crois qu'on peut trouver les castings sur YouTube. Ouais. Ah ouais. Donc voilà à peu près. Alors au niveau de l'humour, hein, l'humour de The Office, donc oui, c'est dérangeant, c'est un humour qui c'est un humour qui crée du malaise, c'est
oui,
pas
comme
forcément...
par exemple dans le premier épisode quand Steve Carell imite Hitler quoi. Et tu fais, mais non, non,
il y a ça quand il imite Hitler, il y a quand il fait semblant dans le premier épisode de virer Pam et qu'elle se met à pleurer, et puis que la caméra insiste, s'arrête pas.
Et puis lui, il regarde la caméra, genre, vous voyez la blague que je suis en train de faire là,
et
elle
puis,
est trop
petit
bien.
Petit à petit, on voit la dérive dans ses yeux, on se dit, putain, merde, j'ai peut-être fait une connerie en fait. On sent le gamin pris dans les doigts dans le pot de confiture et qui arrive pas à sortir du truc. Enfin voilà. C'est pas forcément évident de se mettre tout de suite dans la série. Justement, oui. à cause de ça, parce que c'est une sitcom, mais il n'y a pas de rire enregistré, il n'y a pas de musique.
Il y a des blancs.
Il y a des moments où on va filmer le vide, c'est-à-dire les gens qui sont au téléphone, en train de taper sur leur ordinateur, il ne se passe rien. C'est court, mais ça montre... Alors, justement, ce côté-là a évolué un petit peu au fur et à mesure de la série. Ça n'a pas bougé sur les 2-3 premières saisons, et puis à partir de la deuxième saison, ça commence quand même. On les filme un petit peu à l'extérieur du lieu de travail, où on voit un petit peu, où on sent qu'ils sont filmés un peu à la sauvette, entre deux portes, à travers des vitres, ou un petit peu à leur insu. Et alors ça, les fans, il y avait tout un groupe de fans qui avaient assez mal vécu le truc, parce que faut pas toucher à la substantifique moelle de ce qui fait l'essence d'une série. Mais bon, moi j'aime bien l'idée de cette évolution-là, parce que justement je trouve que ça a permis de connaître les personnages un peu plus en profondeur, et vraiment de leur donner de la substance. Voilà. Et puis, qu'est-ce que je voulais rajouter, un autre truc Oui, il y a aussi petit à petit les équipes. Il y a un côté, ouais, ce côté un peu striptease.
Oui, ouais.
Comme les documentaires où l'équipe de tournage n'intervient pas, mais des fois, il y a des petites. Justement, ils sont quand même signalés par les regards qui leur sont faits. Voilà, c'est.
Ah, il joue avec l'équipe de tournage.
Voilà, c'est ça. Et quand on leur fait signe de les suivre, de venir, de voilà. Donc c'était donc 9 saisons. Par contre, Michael Scott, enfin Steve Carell, est pas resté jusqu'au bout. Il est resté jusqu'à la saison 7.
Il y a du coup Ed Helms qui a repris le flambeau.
Enfin, Ed Helms est apparu avant.
Oui, mais il reprend.
Il est apparu avant, mais il a repris le flambeau. Mais cela dit, il y a eu plein de... Avant que Ed Helms reprenne le flambeau, il y a eu plein de guests qui sont passés à reprendre la place de Michael Scott. Il y a eu Will Ferrell, il y a eu James Spader,
ah.
il y a eu un moment Idriss Elba, quand même. Entre autres guests qui sont passés dans la série, il y a eu Jack Black, Kathy Bates, Jim Carrey. Enfin, c'était, des fois, c'était pour plusieurs, plusieurs épisodes, des fois juste une apparition, juste un rôle. Juste un petit rôle. Il y a eu Jessica Alba, qui c'est qu'il y a eu d'autres. Il y a eu Ken Jeong qui joue le Senior Chang dans Community.
Le chinois ou japonais dans.
Voilà, c'est ça, dans les. Comment ça s'appelle ? Merci. Mm. Voilà. Donc bon, plein de guest stars quand même plutôt sympa. Il y a même Ricky Gervais, donc qui est le créateur de la série britannique, qui a fait plusieurs apparitions. Plusieurs apparitions dedans. Et ils ont même fait des apparitions tout au long, sur les 9 années, des personnes qui avaient participé au casting et qui n'ont pas été prises. Tous, ils ont eu un petit rôle, même une apparition dans la série. Ouais, je trouve que c'est assez sympa. Il y a eu des petits webzods aussi qui ont été faits sur les 3 personnes qui sont à la comptabilité. D'avoir Angela, Oscar et Kevin.
Oui, des histoires de comptes.
C'est très... ça aussi, c'est déroutant. Mais c'est un rire, on rit jaune. c'est un rire qui est grinçant.
Un rire de malaise, des fois.
Ouais, un rire de malaise. Et donc, après la première saison, elle a failli pas être conduite, cette série. Et c'est les téléchargements sur iTunes qui ont motivé la chaîne. Je trouve que c'est NBC à reconduire la série, et finalement, ils ont tenu 9 saisons, quand même.
Et la première saison fait 8 épisodes, enfin, pas 8 épisodes.
Ouais, je crois que c'est même 6.
Ouais.
Il me semble que c'est même 6, la première saison, parce que c'était calqué sur le modèle, le modèle anglais, voilà, c'est ça.
Et les autres saisons font combien d'épisodes ?
Moyenne, c'est 20-25.
Ouais, non, ouais, format à peu près normal, quoi.
Voilà, c'est ça, sur un format 22 minutes, sauf une où il y a des épisodes de 40 minutes et il doit y en avoir 13. Mais c'est peut-être la fameuse grève des scénaristes ou... Après, je sais pas, parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a beaucoup de scénaristes de cette série qui sont eux-mêmes acteurs. Il y en a 3, notamment le mec qui joue, le mec des relations humaines, Kelly... qui est au service après-vente, qui est la fille superficielle, qui pense qu'à se marier et avoir des enfants, et Ryan, l'intérimaire. Tous 3 sont scénaristes de la série. Donc à la fois ils jouent et à la fois ils sont scénaristes. Et il y a une énorme place qui est laissée à l'improvisation. Et il y a une scène, je crois, c'est dans la 3e... dans la 3e saison, où Michael Scott, le patron, pour montrer qu'il est très ouvert, qu'il est gay-friendly, embrasse Oscar, qui est l'homosexuel de...
Oui.
Et ben cette scène est totalement improvisée. C'était absolument pas scripté, et tous les regards... les regards qu'on voit chez les autres acteurs sont réels, ce n'est pas joué, eux-mêmes ne savaient pas ce qu'ils allaient voir.
C'est génial.
Ouais, ça c'est vraiment très très rigolo. Il y a eu plusieurs scènes comme ça, et donc en particulier les pros pour ce genre de moment-là, c'était Rainn Wilson, donc qui joue Dwight, et Michael Scott, enfin Steve Carell, voilà. Donc en tout cas, c'est une série qu'il faut regarder. Moi, je l'ai vue plusieurs fois, régulièrement. Je me mets un épisode, je ne m'en lasse pas. J'ai envie de revoir une scène ou un passage, en plus c'est 20 minutes, donc ça se fait vite, et c'est vraiment... début de l'année, je me suis refait les 9 saisons d'affilée, parce que j'avais un peu tardé avant de regarder les 2 dernières. Je craignais un peu avec le départ de Michael Scott. Alors c'est pas aussi génial. C'est pas aussi génial, mais je trouve qu'ils s'en sortent pas mal, ils retombent bien sur leurs pattes. C'est une fin qui est sympa, c'est beaucoup moins centré du coup sur le personnage du boss. On voit un peu plus finalement certains personnages secondaires qui étaient plus secondaires avant. Et c'est intéressant, c'était bien, vraiment ça s'est bien terminé. Voilà.
Et il y a eu une version française qui s'appelle Le Bureau, avec François Berléand, et j'ai bien envie de regarder pour voir ce que ça donne. Non ?
Je l'ai vu.
Ah mince. Non.
Je sais pas. Non, mais je sais pas. Je crois que... Non, je pense que c'est pas mal. Honnêtement, je pense que c'est pas si mal que ça. J'ai un problème avec François Berléand. Ah, mais ça, c'est personnel. J'ai un vrai problème personnel avec cet acteur-là, donc...
Ça, c'est depuis le transporteur.
Je sais pas de quoi tu me parles, je ne l'ai pas vu.
Lequel, le 1, le 2 ou le 3?
Le 4. Ou...
Voilà, donc vraiment, je vous le recommande. Et, après, c'est quand on met le doigt dedans, c'est difficile de s'en sortir.
Très bien, et eh ben merci.
Avec plaisir.
Izura, réveille-toi, ça va être à toi.
Ok.
Je pense que tu es prêt.
Totalement prêt.
Oui, le Aéromythe, alors attends, l'Aéromythe, c'est Barbaros qui venait passer parce que c'était pendant un speedrun, un super play d'un jeu, on entendait que ça et ça énervait tout le monde. Voilà, je voulais le mettre. Alors.
Je comprends mieux maintenant certains messages sur Twitter le week-end. Voilà. Mais c'est un délire.
Ouais, c'est ça, ah, c'est on a bon, eu la version bon. Écrite, maintenant on a la version audio.
Alors le Stunfest.
Alors le Stunfest, moi, je parlais de jeux vidéo, de galets de saucisses et de la dose.
Ouais, dose.
Ouais, ah, de la dose. Alors bon, le Stunfest, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est un festival à la base dédié aux jeux de combat, qui était là du 2 au 4 mai pendant la semaine dernière. Ça s'est progressivement étendu en fait, c'était la base de jeux de combat et là c'est un peu plus diversifié. Donc il y a notamment il y a plein de jeux, il y a plein de bornes d'arcade, il y a plein de rétro gaming, de jeux vidéo partout. C'est pas comme comme une Japan Expo en fait, c'est vraiment centré sur le jeu vidéo. Il y a peu de stands. C'est vrai que c'est assez petit, c'est pas comparé, on peut pas comparer ça enfin un niveau taille à la Japan Expo, même s'ils ont agrandi l'endroit. Et c'est vraiment un putain de festival. Ils font venir des Japonais, plein de gens, enfin des gens un peu célèbres. Notamment, il y avait Justin Wong qui s'est fait battre.
Ouais, il s'est fait virer de son hôtel.
Oui, j'ai vu sur Twitter qu'il s'est fait virer de son hôtel parce que son hôtel fermait le dimanche. J'ai pas compris.
Un hôtel qui ferme le dimanche.
Et le dimanche matin, il se fait virer de l'hôtel avec tous ses prix, toutes ses coupes, tout ça. C'était marrant.
Et donc du coup, il s'est fait défoncer par Luffy, qui est un joueur français, je crois. Sur Street Fighter 4 qui était la grande finale que j'ai pas pu voir du coup, que j'ai dû voir sur vidéo parce que c'était le dimanche tard, fallait rentrer sur Paris. Qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait des transats, les fameux du coup transats pour s'allonger, pour garder un peu essentiellement des super plays, des tournois. Il y avait pas mal de conférences, ça qui était vraiment sympa, et il y avait des galets de saucisses. Alors,
parle-nous des galettes de saucisses pendant un quart d'heure.
Qu'est-ce que nous dit Wikipédia? La galette de saucisse est un encas composé d'une saucisse de porc grillée roulée dans une galette de sarrasin froide. Le truc assez marrant, c'est qu'il y avait le match de Rennes Guingamp, je crois, qui était diffusé sur la place centrale, qui était à 2 mètres de la sortie. Ouais. Et il y avait partout des mecs qui faisaient des grillades et tout, et il y avait forcément des galettes de saucisses. Donc j'ai l'impression que c'est un truc un peu typique rennais, ou en tout cas breton, vraiment bien à Rennes. Et donc il y a une page Wikipédia entière dédiée à la galette de saucisses que je vous invite à regarder. Parce que c'est vraiment super bon, ça cale, et c'est 2€, c'était 2,50€, donc c'était vraiment rien, quoi.
C'est pas cher.
Qu'est-ce qu'on pouvait retrouver au Stunfest? Moi j'y suis allé, je suis extrêmement mauvais aux jeux de combat, jeux d'arcade, jeux de super player, c'est pas vraiment mon truc parce que je suis extrêmement mauvais. Donc j'y allais essentiellement pour deux choses, qui est les concerts et les conférences. Je savais pas qu'il y avait des super plays qui étaient diffusés, du coup je les ai pas trop vus. J'ai juste vu vite fait Super Play, Super Meat Boy. Donc la partie concert. Donc moi j'étais que le samedi et le dimanche, qui est une grosse connerie d'ailleurs. Faut pas y aller, faut y aller les 3 jours parce que c'est vraiment le vendredi ou samedi où il y a le plus de conférences et le plus de concerts. En concert, il y avait 1, 2, 3, 4, 5, 6, il y avait 6 concerts le samedi. J'ai un peu passé sur ce que j'ai vu. Donc Fantasy Brass 5, je suis rentré et j'ai pas pu rentrer parce qu'en fait tout le monde était assis et la place était blindée. En gros, c'est un concert acoustique. C'est des mecs qui sont dans l'orchestre du Video Game Live. Je sais pas si vous connaissez.
De nom, ouais.
Et ça avait l'air assez sympa. Et du coup, j'ai pas pu y assister. J'étais assez triste. Du coup, je suis allé dormir dans un transat en attendant. Il y avait quoi? Il y avait Super Castlevania Quartet, qui en gros c'est un quartet en live de musiciens.
C'était bien ça.
Qui font du... ouais, c'était vachement bien. Qui font en gros, il y a en fond, il y a des gens qui jouent à Super Castlevania 4. Et c'est pas des gens, c'est le public. C'est ça qui est cool, c'est que le public se passait les manettes et ils essayaient de speedrunner un peu le jeu.
Arrivé à la fin du niveau. Ouais.
Et c'était assez chaud d'ailleurs à la fin. Le mec a failli réussir à battre le boss, il s'est fait défoncer à la fin. Ce qui est assez dommage, mais ils avaient des sauvegardes exprès pour jouer l'épilogue. C'est cool. Après, on a eu Shirobon, je sais pas comment on dit, c'était son anniversaire, on l'a fêté un joyeux anniversaire d'ailleurs. Et là, on entre vraiment dans les concerts électro chiptune. Donc la chiptune, c'est tout ce qui va être la musique électronique à base de Game Boy, de NES. Enfin, c'est vraiment des consoles qui sont rétro gaming, qui avaient une puce dédiée au son et qui n'étaient pas virtualisées comme on peut avoir maintenant dans les consoles. C'était très très bien. J'ai vachement kiffé. C'était super puissant. Le problème, c'est que là, j'écoutais du coup les albums en rentrant et j'ai pas retrouvé la même ambiance. J'ai pas retrouvé le même truc. C'est, je trouve ça un peu dommage. Il y avait ensuite la grosse découverte musicale pour moi qui était Squirtune Musician, que je connaissais pas du tout. On m'a dit, faut absolument que t'écoutes ça, c'est trop bien. Et c'était en gros, le mec reprend des samples notre enfance, donc il va y avoir quoi, des Tortues Ninja, Jess le Conquérant de la Lumière, DBZ, il y a des jeux vidéo comme Zelda et tout avec une ambiance un peu électro derrière. C'est super bien écouté, faut absolument écouter son SoundCloud, il est vraiment cool. Et donc Squirtune Musician. Après, il y avait du contrôleur qui était de la chiptune aussi, mais j'ai tout loupé parce que j'étais dehors en train de fumer. D'ailleurs, c'est pour ça que j'arrête pas de tousser depuis tout à l'heure, c'est que fumer après un concert en t-shirt, c'est pas très bon. Faut pas. surtout dehors. D'ailleurs, il faisait vachement beau à Rennes, ça faisait vachement plaisir.
Bah oui, tu vois, il fait beau en Bretagne.
Ah ouais, mais Rennes, c'est à la limite de la Bretagne. C'est,
Tu chipotes là.
Sujet glissant, dangereux. J'ai pris des coups de soleil en Bretagne.
Et non, il faisait un peu froid la nuit, mais non, franchement, c'était super cool. Et à la fin, il y avait Sabre Pulse qui déchirait tout en live, qui était vraiment fou. Ça finit vers le coup de 3h du matin. On s'est fait virer à ce moment-là. Et c'est vraiment Sabre Pulse. Il est vraiment très connu dans le milieu du coup de la chiptune. C'est vraiment un truc à écouter. C'est pareil, des trucs de Game Boy, des sons de Game Boy, des sons bien électro, et c'est assez sympa. En conférence, j'ai vu deux conférences principales. Bon, je les ai pas vues en entier parce que fallait que je joue le truc.
Oui, ouais, ouais, fallait tu que nous as lâché quand même.
Aussi.
Pour l'anecdote, ouais. C'est marrant parce qu'on s'était jamais vu avant. Et donc je te vois sur Twitter en train de tweeter une photo de la scène de la conférence. Et t'étais décalé sur la gauche par rapport à nous. Donc je te demande où tu es et je vois une tête qui se lève comme ça et puis on se fait coucou comme des bonnets. Genre ouais, salut.
Et on peut baisser les bras parce que j'ai une trompe. Oui.
Ah non, mais c'est pour ça aussi que je suis venu au Sunfest, c'est pour voir des gens, voir un peu. Il y avait vraiment énormément de monde. Il y avait en plus 2080 DJ Pai qui étaient là, qui sont restés tout le long du Sunfest, donc qui sont des musiciens qui jouent en concert le vendredi. Et donc ça, c'était vraiment cool. Donc en conférence, il y avait une sur l'histoire du jeu vidéo avec entre autres Julien Lalu, Alexis Blanchet, Vincent Berry, Douglas Alves. Donc des grands noms un peu du milieu vidéoludique, ouais. Je m'attendais vraiment à un truc bateau au début, je me suis dit ouais, l'histoire ça va être les trucs qu'on a entendu 15 000 fois, et bah pas du tout.
Beaucoup de documents d'archives, c'était
ouais, il y avait énormément de documents d'archives, des pubs de l'époque qui étaient à mourir de rire. Moi je suis resté donc juste pour la partie où tout début parlait de Pong et la console Odyssey. C'était excessivement bien et je me suis bien marré à voir en gros la mentalité de l'époque, genre que pour eux la télé c'est vraiment un device qui était branché, enfin c'était pas un device où on pouvait brancher des trucs genre avec la périphérie et tout ça, ils étaient obligés de passer par l'électricité pour faire penser que c'est une chaîne à la télé, des trucs assez fous. C'était vraiment super marrant. Genre, le mec, il y avait une vidéo du tout sur une tuto sur comment brancher sa console Odyssey sur une pub. C'était assez marrant, quoi. Les mecs, ils dédunaient des fils, ils les branchaient dans une prise. Tu fais ah ouais, quand même.
Le truc pas risqué du tout.
Non, c'était fantastique. C'était vraiment une très bonne conférence. Moi, je suis parti avant la fin. Elle durait 2 heures, je crois.
2h30.
Elle était à 2h30, ouais, c'était assez long. Et du coup, je me suis dit, faut que j'aille voir d'autres choses parce que.
Et donc, c'était de l'histoire des jeux vidéo de 72 à 90. Et je crois qu'à la fin de la conférence, vous êtes arrivé en 78 ou en 75. Pour dire que moi, je ne voulais pas rester.
Celle que j'ai vue ensuite, celle qui était le dimanche, qui était sur les enjeux de la recherche en jeux vidéo. Donc il y avait toujours Julien Lalu, Axi Blanchet et Vincent Berry, qui sont, je sais plus respectivement qui et quoi. Il y en a deux qui sont enseignants, maîtres conférences, et il y en a un qui fait sa thèse. Et donc il parlait du coup des enjeux sur comment faire sa thèse. Au final, j'ai vraiment appris sur tout ce qui était le parcours du combattant des doctorants pour avoir des bourses, trouver un sujet, etc. Qui avait l'air assez compliqué et vraiment. Genre les mecs disaient oui si tu fais la bourse alors t'es pas obligé de passer par là mais faut s'y demander à cet endroit là, etc. Et les mecs ont l'air de vraiment galérer pour trouver à faire des thèses. Sachant qu'en plus il y a pas de filière dédiée pour le jeu vidéo. Et donc les mecs sont toujours obligés de se raccrocher à quelque chose. Donc avoir des filières dans la musique ou dans l'histoire par exemple, faire par exemple l'histoire de l'âge médiéval dans le jeu vidéo, des choses comme ça, c'est assez assez conséquent quoi. Et même si au final j'ai vraiment eu l'impression qu'en gros les thèses étaient faites pour donner des la suite professionnelle des mecs qui font des thèses, c'est enseignant
oui, c'est
pour après faire des mecs qui ont des thèses. Ça avait l'air super cyclique et ça me paraissait un peu bizarre comme concept. Donc voilà. Je pense que je vais rattraper toutes les conférences qu'il y a eu, puisqu'il y en avait, pas mal qui étaient intéressantes. Notamment celle sur le procédural que j'aurais bien aimé voir. C'était vraiment des trucs assez poussés. Il y avait la vision du monde musulman dans les jeux vidéo.
La représentation du monde musulman dans les jeux vidéo.
C'était assez. Il y avait vraiment des sujets auxquels je m'attendais pas du tout à voir. Et c'était assez sympa. Côté tournoi, il y avait une grande salle où il y avait plein de tournois. Le problème, c'est que fallait être en tant que visiteur. On pouvait y accéder qu'en tant que visiteur, donc il fallait attendre qu'en gros il y ait suffisamment de gens qui soient partis en tant que visiteur pour prendre un badge et passer.
Je suis pas allé.
Je suis juste allé, j'ai fait un tour, j'ai vu un peu les jeux. Il y avait pas mal de Street Fighter, il y avait du JoJo's, je sais plus ce qu'il y avait. Il y avait vraiment beaucoup de choses et ça dosait à fond. Donc, tous les mecs, ce qui est marrant, c'est que tous les mecs se baladaient avec leur stick Xbox pour les brancher. Après, c'était assez marrant. Ah, j'aimais bien, mais je pense que il y en a pas mal déjà de vidéos qui sont sorties des finales sur le YouTube du Stunfest, donc l'association 3 Hit Combo. Faut les regarder parce qu'il y a du gros level. Quoique j'avais vu celle sur JoJo's Bizarre Adventure là, et en fait, depuis que je l'ai vu à la Stunfest, là je suis en train de me les mater en anime.
C'est bien.
C'est vachement bien, c'est complètement délire, j'aime beaucoup. Et le commentateur de la vidéo est assez fou, il m'a un peu dérangé quand même. Donc vidéo à regarder, c'est assez sympa. Et j'avais vu quoi aussi, Super Marvel, Marvel vs Capcom, qui était assez sympa. Il y avait un énorme stand, un énorme couloir dédié aux jeux indépendants.
Ouais,
il y avait au moins une vingtaine d'exposants. Notamment il y avait les mecs de Lengmin qui présentaient leur jeu, plein de gens qui présentaient leur jeu. Il y avait Oi qui était un super jeu. C'est un jeu avec son Kinect où en gros on doit faire des figures et crier Oi à chaque fois qu'on l'a fait pour valider un peu le truc. Donc du coup c'est en 1 versus 1 à faire Oi Oi Oi. Ça dure une minute je crois et t'es crevé à la fin. C'est vraiment pas mal fait. C'est un truc très bien. Moi j'ai vu plusieurs jeux, donc Deadcore qui était magnifique. Qui était vraiment magnifique, c'est un jeu FPS un peu à la Portal. Et j'ai fait, ah ouais, ça c'est un jeu indépendant. c'est vraiment.
Comment tu dis ça? Deadcore.
Ouais. C'est vraiment très très beau. J'ai vu Ilios, qui est un genre de jeu d'aventure qui est excessivement joli. Malheureusement, les plupart des trucs indépendants, il y avait pas, c'était juste des démos. Il y avait pas mal de démos, démos techniques et ou un niveau pour voir, parce qu'ils sont souvent en cours de développement. Mais les artworks sont juste magiques, quoi. Ils avaient un carnet avec tous les artworks. Il y avait un boss qui était le Minotaur et j'étais vraiment sur le cul. C'était excellemment bien fait. Et j'ai vu quoi j'ai vu Splasher, qui est un mix entre Super Meat Boy, un peu Portal pour le côté puzzle.
Les fluides.
Voilà, et c'était pas mal. Franchement, c'est pas mal. Au départ, j'ai fait, ah ouais, c'est un Super Meat Boy, sauf qu'il est vachement lent, enfin, il est beaucoup plus long que Super Meat Boy, donc du coup, tu fais, ah, c'est pas super ouf. Et au final, quand tu y joues un peu, tu vois toute la mécanique, et c'est assez cool. Et voilà, c'est les trois jeux que j'ai retenus.
Ouais, moi aussi.
Et ensuite, il y avait une partie dédiée au Super Play, où j'ai malheureusement pas pu tout voir. Donc notamment celui Super Meat Boy, je crois que t'es resté vachement longtemps dessus.
Et aussi celui sur comment ça s'appelait, Super Hexagone, où le mec jouait avec ses pieds sur son iPad. Voilà, c'était très impressionnant.
Non, mais les mecs sont clairement fous. Il y avait un mec qui faisait du Ikaruga, donc un shmup, qui était sorti sur Dreamcast, je crois, à l'origine. Et le mec, en gros, il y avait deux vaisseaux, il jouait avec les deux vaisseaux, avec ses deux mains. Il avait deux sticks en même temps, il jouait. C'était assez fou. Il y avait du Dompachi, du Mushi Mesama. C'était vraiment du gros level impressionnant. C'est vraiment du niveau qu'on peut voir dans les super plays de sur No Life ou sur NesBlog, je sais plus, les speedrun qu'on peut voir sur NesBlog.
Il y avait un super play de Pokémon Puzzle League.
Voilà, c'est vraiment je pense que c'est un festival où il faut vraiment y aller. Les trois jours entiers, parce que c'est vraiment super bien. Il y a une excellente ambiance. Genre tu pouvais laisser tes affaires, tu savais qu'on allait pas te les piquer, il y a pas de problème. Il y avait je pense le monde suffisant en fait. C'est que la salle était assez grande pour qu'il y ait suffisamment de monde. Et enfin ils avaient quand même pas mal de monde. Donc du coup ça fait plaisir pour les mecs qui ont organisé ça, parce que tu te dis ouais ça marche bien leur truc, et en même temps tu pouvais quand même accéder aux bornes d'arcade et faire des trucs.
Et les gens sont super sympas.
Ouais bah je pense que c'est la Bretagne.
Oui j'en avais parlé.
C'est l'ambiance Bretagne.
Les vigiles, la sécurité étaient étonnés de voir des gens aussi calmes, aussi sympas. Tu vois, c'est sûr. Les gros bourrins du foot d'à côté. Quoi.
À côté des mecs de foot c'est sûr.
Ouais.
Non c'était marrant. Et puis voilà, pour les galets de saucisses,
voilà,
faut y aller.
Et les tendettes. Je pense que ça résume bien. T'as fait un bon tour là, je pense.
Ouais, j'ai pas trop de trucs à dire.
C'est prévu qu'ils mettent les conférences
ouais,
sur YouTube,
ouais.
Quoi, hein, c'est ça,
ouais,
il
ouais.
me semblait. Hein, ouais.
Ils vont mettre plein de vidéos sur YouTube. Là, ouais. Pour l'instant, c'est essentiellement les finales.
D'accord.
Donc c'est cool.
Bon, on va passer à la conclusion. J'espère que ça a été, hein, c'était la première fois que vous veniez. Je pense que ça a été.
Ah, très bien.
Alors, où est-ce qu'on vous retrouve, Milou, où est-ce qu'on te retrouve?
Alors, pour me retrouver, c'est assez simple. Il y a Twitter, @lemilou tout attaché. Et sur le site de notre podcast, fmicast.net. Voilà, pour l'instant, c'est tout.
Ce n'est pas un podcast sur les FMI.
Comment?
Rappelle-le, ce n'est pas un podcast sur les FMI.
Non, 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 du tout.
J'ai pas osé le demander. Voilà. Je l'ai pensé, mais j'ai pas osé.
C'est ça, non mais...
On est spécialisé sur DSK.
Le podcast sur DSK, c'est fou. Anna.
Eh ben moi, sur Twitter, @anna_colute, COLUTH.
Pas de blog, pas de podcast, non.
Un jour, j'aurai un site pour mes photos.
D'accord.
Je vous tiendrai au courant quand je lui serai mise.
Isoura.
Alors, on peut me retrouver sur mon Twitter @isoura, Izura, ou alors sur notre podcast qui est le comptoir Sécu, comptoir.secu.fr.
Avec de la Suze.
Voilà, avec de la Suze dedans.
Ah, c'est bien ça, la Suze.
Bon, bien sûr, je ne peux pas terminer l'émission avant de parler de quoi? De quoi je vais parler?
Pas de Rennes.
Et oui, bien sûr.
Et oui.
Donc, ça n'a pas changé, c'est toujours le 14 juin à l'Auberge de la Jeunesse à Rennes. C'est une après-midi entière à discuter podcast, puis le soir on se retrouve autour de quelques binous, ça vous va?
Ouais. Oh ouais, très bien.
Très bien.
Vous serez là d'ailleurs, vous serez tous là.
Je serai là.
Très bien.
J'attends ça avec impatience. pour bon, manger là, des galettes de saucisses.
Ouais, mais j'espère qu'on aura. On va essayer d'en faire. Et bon, là, je prêche des convaincus. Donc. Alors, donc, n'hésitez pas à nous faire part de votre présence sur le Doodle que je mettrai dans les liens de l'émission. Et vous avez aussi les infos sur le Twitter @podren et la page Facebook facebook.com/podren. Et on a même mis en place du covoiturage pour ceux qui en cherchent ou en proposent. Donc, n'hésitez pas. Et on vous attend nombreux. Donc.
Voilà. Si on est sur Paris, j'ai une voiture.
L'appel est lancé. Bon, bah, je pense que j'ai fait un bon tour. Ça va être le temps de lancer la fin de l'émission. Alors, vous pouvez retrouver l'émission sur leséclaireurs.wordpress.com, sur Twitter, @les_éclaireurs, sur Pod Radio, sur podcastfrance.fr, sur freshpods.fr, et maintenant, on se retrouve dans deux petites semaines avec des nouveaux invités. Salut!
Au revoir!
Salut. Bye bye!